Il a beaucoup prié pour les autres.
Seigneur, bénis et protège notre souverain, le grand duc Jean, et son auguste épouse, la grande duchesse Joséphine.
Mais pas assez pour lui. Il aurait peut-être jour à perdre.
C'est pas vraiment l'idée.
La prière ne sert à rien, là,
comment
en l'occurrence.
Comment ça ne sert à rien?
Mais non, mais c'est, vous avez vu les questions de votre quiz, Mathieu Noël?
Mais vous priez pour gagner, pour avoir un peu de chance ou...
Vous priez pour
avoir
des bons
résultats. Vraiment... Mais vous rendez compte, c'est vraiment une conception césaro-papiste, ça. Je prie pour moi. Mon Dieu, faites que j'ai le baccalauréat.
Exactement, j'ai beaucoup prié pour avoir le baccalauréat. D'où l'existence de Dieu.
Écoutez, c'est lamentable.
Je l'ai faite. J'avais pas pensé à ça. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. On a tous en tête le sceptre de Saint-Louis, ce bâton de commandement surmonté d'une fleur de lys. Eh bien, François Ier en avait un également, mais il ne le sortait jamais. On l'appelait le bâton de Nazazi. Vrai ou faux?
Alors là...
Ah,
je suis comme deux ronds de flanc, si je puis me permettre.
Vous n'avez jamais entendu parler du bâton
jamais,
de Nazazi?
Jamais.
Vous non plus?
Non.
Le bâton de Nazazi.
Bravo les historiens. Soi-disant, ça touche sa bille.
Eh ben non, moi je dirais non. Parce que
vous
sinon...
dites non. Non,
moi je dirais non aussi. Ça ne me dit rien, le bâton de Nazazi.
Vous avez...
Mais oui, c'est une bonne réponse. Le bâton de Nazazi est un trophée virtuel au foot. En 1930, c'est la première Coupe du Monde. Elle est remportée par l'Uruguay. Le capitaine de l'équipe est José Nazazi. On a décidé que l'Uruguay devenait l'équipe qui détenait le bâton de Nazazi. Oui, c'est parce que c'est tellement vous dites oui, bien sûr, François Ier. Et dès qu'une équipe le bat, match après match, elle récupère ce trophée. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui l'a, mais ça peut changer très vite. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Fortier-Kaltenbach. Joseph Pujol a été pendant un mois ministre sous la Troisième République d'un ministère qui n'existait que 3 mois, dans un gouvernement qui n'existait que 4 mois. Vrai ou faux?
Écoutez, c'est tout à fait possible, car dans mon souvenir, c'est sous la Quatrième République ou la Troisième?
La Troisième.
Je crois que la Troisième République, c'est 65 gouvernements, et la Quatrième, je pense que c'est 24 ou 26 gouvernements, on en attend encore plus limité. Donc, les ministères se faisaient et se défaisaient au gré des majorités parlementaires, c'est-à-dire éventuellement en une nuit. Donc, le nom de ce monsieur ne me dit rien, mais qu'il ait pu être ministre dans un ministère extrêmement éphémère, je le crois volontiers. Je réponds oui.
Elle répond oui, le raisonnement est excellent.
Vous avez...
La réponse, elle, l'est moins. Joseph Pujol n'a pas été homme politique. Il est né à Marseille en 1857.
Il a inventé la nisette et le savon de Marseille,
mieux,
c'est ça ?
Il reste à ce jour le pétomane le plus connu du monde.
Bien, oui,
il s'est produit au Moulin Rouge. Il était capable d'éteindre une bougie avec un hut dièse, figurez-vous.
Le pétomane, oui, bien sûr.
Et en 1900, pendant l'exposition universelle de Paris, il est même filmé par Thomas Edison. Il est mort ruiné à 88 ans. Rest in peace, monsieur Pujol.
Oui.
Repose en paix.
Cela dit, Mathieu, pour ma défense, si on devait faire le compte de tous les ministres de la Troisième République, j'ignore. À mon avis, on en trouverait 200, 300, 500.
C'est plausible.
Vous avez zappé le jeu de mots de Mathieu.
Oui, non, mais Elsa, parce qu'elle est dans son truc. Restez
en paix.
Oui, oui.
Pour un pétomane.
Oui, 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 c'était
oui,
drôle.
Oui, mais il le dit. Ah, excusez-moi, oui, c'était oui, très, très drôle.
C'était très, très drôle, bravo. Et je vous prie, je vous remercie de le souligner. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Le 5 juillet 1954, Elvis enregistre à Memphis.
Ça, c'est bien fait pour vous. Oui, pardon.
C'est une question historique.
Oui.
Elvis. Non. Une question de.
Alors, on peut passer de François Ier. Passer de François Ier à Elvis, c'est le cœur même de cette émission, en fait. Oui. Donc, concentrez-vous. Le 5 juillet 1954, Elvis enregistre à Memphis. That's all right, mama.
Well, that's all right, mama. That's all right for you.
Elvis.
That's all right, mama.
Vrai ou faux?
Bah oui.
J'ai vu récemment une photo de lui enfant, il est absolument irrésistible. C'est une photo en noir et blanc, donc c'est difficile de savoir quand même si...
Alors, question historique. Elvis Presley était-il blond en 1954? Voilà. C'est-à-dire, je vais donc être jugé.
Là-dessus.
Sur mes compétences historiques.
Vous pouvez tout perdre là-dessus.
Oui, je
vous
sais,
pouvez s'arrêter.
Je sais.
Une belle carrière. Rondement
est-ce
menée.
Est-ce que je pense que les auditeurs d'Europe 1 maintenant ont quelque indulgence par rapport à nos résultats dans ce quiz. J'ai jamais vu blond, mais là,
blond.
Pour vous faire plaisir. Sinon, la question n'aurait pas de sens.
Ça serait bizarre. Mais il aurait pu être roux. Je ne sais pas, Stéphane. Je ne sais pas.
Je dirais blond. Allez.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse, Stéphane. Vous connaissez bien l'histoire. Et vous l'avez encore prouvé cet après-midi sur Europe 1. Il était blond, Elvis, blond cendré pour être précis, puis il a fait des teintures noires à partir de 21 ans, en 1956, donc en 1954, il était bien blond. C'est une bonne réponse.
Quelle drôle
Hubert.
D'idée. Pourquoi cet homme qui était beau comme tout, quelle drôle d'idée d'aller se teindre les cheveux en brun comme ça, enfin.
Mais peut-être c'était la mode du brun. Ou pour un rocker, c'était
non,
mieux
parce
brun,
qu'à l'époque, Marilyn Monroe, qui était brune, mais enfin, on l'a obligé à se teindre en blond. Façon Jean Harlow. Donc vous pensez que le blond était à la mode pour les femmes,
oui,
et le brun pour les hommes.
C'est ma théorie, effectivement, mais... théorie historique intéressante.
Bien sûr.
Et il y aura certainement des thèses qui seront pondues là-dessus. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Qui n'a jamais eu la Légion d'honneur ? Pétain, Bachar el-Assad, Nicolas Ceausescu, Mussolini ou, réponse E, tout le monde l'a eu.
Alors, je pense que Pétain l'a eu naturellement pour sa très belle campagne de France pendant la guerre de 14. Est-ce que Mussolini a pu l'avoir et est-ce qu'elle lui aurait été donnée par l'État français entre 40 et 45? C'était touchy quand même. Ceausescu a tout à fait pu l'avoir.
Il l'a eu, Ceausescu.
Bien sûr, comme un certain nombre de dictateurs l'ont eu.
Il a eu même un très haut grade.
Et quel était... Ou alors,
je crois qu'ils l'ont tous eu, écoutez. Ouais.
C'est fou.
Ils l'ont tous eu, probablement.
Toute la liste que j'ai donnée, ils l'ont tous eu.
Il en manquait un, attendez, Ceausescu, Pétain,
Bachar el-Assad, Nicolas Ceausescu,
moi, je pense
Mussolini.
Ils l'ont tous eu.
Ils l'ont tous eu.
Oui.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné.
Ah oui.
Mais c'est Stéphane qui a gagné le quiz. Mais je donne la réponse précisément. C'est vrai que c'est important. Le commerce aussi. Le ministre du commerce, Lucien Dior, l'a donné à Mussolini. Figurez-vous, pas dans quelles circonstances. On dit que les Français sont membres de la Légion d'honneur. Du coup, on peut en être exclu. Alors que les étrangers sont décorés. Donc, ils l'ont à vie. De Gaulle a décoré Nicolas Ceausescu. Bachar el-Assad arrive au pouvoir en 2000 et il est décoré l'année suivante. Quant à Pétain, il l'a eu puis il a perdu. Car reconnu coupable d'intelligence avec l'ennemi. C'est la fin de ce quiz, remporté triomphalement sur une question très pointue d'histoire moderne.
Oui, de blondeur
ou pas. De blondeur d'Elvis Presley. C'est une magnifique victoire de Stéphane Bern.
Merci.